Vous écoutez
RMC.
RMC. L'Afterfoot.
Gilbert Bribois.
Avec Jérôme Rotten ce soir, avec Florent Gautreau et avec Mathieu dans quelques instants, on va parler de Jérôme. Mais juste avant, des choses voilà, qu'on apprend qui sont passées dans les tribunes et on s'en est pas forcément rendu compte pendant le match. 1. Banderole pro-kurde déployée à la 86e minute par des supporters français, une banderole qui disait arrêtez de massacrer les Kurdes. Cette banderole a été évidemment tout de suite suscité la réaction des supporters turcs et de nombreux sifflets venant de la tribune visiteur. Échauffouré autour de l'endroit où était placée la banderole, et puis les services de sécurité donc ont contrôlé la situation et tout est revenu au calme en quelques minutes. Voilà, pas d'incident aux abords du stade ni dedans, mis à part cette histoire de banderole. Bon, à moins de nouvelles informations qui nous arrivent. Et donc, a priori, à la fin du match, certains joueurs turcs sont allés devant la tribune de leurs supporters et ont fait donc ce fameux salut militaire qui suscite la polémique depuis quelques jours. Salut militaire en soutien à l'armée turque en intervention actuellement en Syrie contre les Kurdes. Voilà, donc
on imagine qu'il y a un soutien.
Oui.
Ça, c'est affiché, ça, c'est assumé. Parce que le fait qu'il y a un soutien.
Oui, on peut mettre le conditionnel, tu as raison.
Ce que je veux juste dire, c'est que ce salut, parfois, il a été fait d'autres reprises. Si on se souvient de Kurzawa dans des matchs qui n'ont rien à voir.
Ouais.
Donc, je veux juste te dire, évidemment, dans le contexte actuel, il semble évident que ce que tu dis est la vérité, que c'est en soutien à l'armée. Je ne sais pas si eux le revendiquent comme tel. Je ne sais pas s'ils l'ont assumé comme ça, mais bon.
En tout cas, ça a été fait. Voilà, on pourrait revenir sur tout ça et sur ce qui s'est passé aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'était la folie furieuse au niveau politique là sur les demandes multiples d'annulation du match qui finalement a donc bien lieu. Évidemment.
J'avais fait une intervention et j'ai remetté là, et on était tous ensemble sur l'histoire des hymnes. J'avais fait de manière
hymne d'ailleurs respecté.
Respecté ce soir, mais ce qu'attendaient les gens, ou presque ce qu'espéraient tous ces politiques qui ont demandé le report du match, ou l'annulation plutôt du match, c'était il va forcément y avoir des soucis, soit un signe des joueurs turcs, soit des sifflets sur l'hymne français, il n'y en a pas eu. Mais c'est en ce sens que je disais ça, et même si ça a pu être jugé un peu provocant ou provocateur plutôt de ma part, j'ai bien compris que ça fait partie de la légende du foot, et moi aussi j'aime beaucoup ces moments où on chante tous ensemble, etc. Mais il y a tellement de récup aujourd'hui de politique de n'importe quel moment et n'importe quelle action que l'hymne aurait pu être un moment de récupération, soit des uns, soit des autres. C'est en ce sens que j'avais dit supprimons les hymnes, comme ça on n'aura pas ça. Ça n'empêche pas, t'as raison, que même avant les hymnes dans la journée, t'as de la récup politique à tous les étages.
On va y revenir, mais on va écouter la première réaction de Didier Deschamps, si on peut, en direct du Stade de France. Il vient de s'installer pour sa conférence de presse. On peut écouter la.
Didier, quel sentiment domine ce soir ?
On y va.
De la déception, de la frustration ?
Ouais, c'est un peu ça. Et les joueurs ont ressenti ça parce que on a fait ce qu'il fallait pour le gagner, on a manqué d'efficacité par rapport au nombre d'occasions qu'on a eu, et puis eux, ils en ont une ou deux, même si ce coup franc est très bien tiré, ils sont très dangereux sur ces phases-là. Voilà, ils ont profité pour égaliser, mais que ce soit en première mi-temps et en deuxième mi-temps, sans un grand gardien en face, mais bon, c'est comme ça des fois. Dans tous les cas, je suis satisfait du contenu de ce que l'on a fait. Vous savez que c'était l'adversaire direct, autant au match aller, il n'y avait pas photo. Ce soir, il y a eu match, mais sincèrement, on a fait ce qu'il fallait, mais sans arriver au résultat qu'on voulait. Donc on reste côte à côte avec un point de plus au compteur, il ne reste plus que deux matchs. Donc il nous faudra finir le boulot, comme on dit, et atteindre notre objectif sur le prochain stage avec la réception de la Moldavie et le déplacement en Albanie.
Voilà donc pour la première réponse de Didier Deschamps. Apparemment, la qualité sonore n'est pas top, donc on va s'arrêter là.
Il y a un truc quand même qu'il faut noter. Pour être tout à fait juste, on a dit que les Bleus avaient quand même fait une bonne première période avec des Turcs qui refusaient le jeu. Ça a été dit. Il faut dire quand même que la France s'en sort seulement avec un nul et une défaite contre la Turquie. On pourrait dire c'est vraiment un mauvais bilan face à la grosse équipe du groupe. Mais il faut pas oublier les absents pour le coup. Autant on peut pas s'en servir comme excuse face à l'Islande, autant on a le droit quand même face à la Turquie de dire que il te manque Loris, il te manque Pogba, il te manque Mbappé. Évidemment. Donc c'est vrai aussi que t'as pas totalement toutes tes forces. tu vois, ouais, il faut pas
est-ce
se...
que, est-ce que
Mbappé, tu vois, c'est le genre de match, je pense que effectivement où
ouais, mais si tu joues avec Mbappé, tu joues pas avec Coman, et Coman a été satisfaisant. Ouais. Non, mais c'est oui.
Oui, je suis d'accord, non, mais ce que
après,
je veux dire,
je te dis pas, je veux pas comparer les deux, parce que c'est vrai que t'en as un qui est sur une autre planète. On le sait tous, qui est capable de dynamiser n'importe quelle attaque, d'éliminer deux trois joueurs facilement, mais Coman le fait aussi. Là où je mettais en avant le fait que on a eu des situations intéressantes, et moi ça m'a plu, si tu veux, sur l'ensemble du match, ce que les Bleus ont fait. Après, il dit ouais, si le gardien en face avait pas fait un match incroyable, moi j'ai pas, le gardien a fait des arrêts en face,
très bon match,
ouais. mais voilà, il avait pas la baraka, comme on peut dire, il a pas fait 10 arrêts par mi-temps, quoi.
Non.
Donc on a pêché encore une fois dans la dernière passe, le dernier geste, quand il faut mettre un bon ballon pour aller se créer la vraie occasion, la grosse occasion, il est toujours un petit peu trop long, ou il est contré. Les centres, moi je suis désolé, on en reparlera tout à l'heure quand on parlera de Giroud, mais quand tu joues avec une équipe qui est très regroupée, tu passes par les côtés, surtout dans un 4-4-2, les latéraux doivent apporter beaucoup plus, et surtout avoir une qualité de centre bien supérieure. Et excuse-moi, j'ai pas le souvenir aujourd'hui d'avoir un bon sens. Lucas Hernandez a fait un très bon match, mais pareil, dans la finition, il est beaucoup rentré avec son pied gauche pour aller frapper. Il s'est déchiré 2-3 fois. De l'autre côté, et moins de centre. Et de l'autre côté, Pavard, le peu de fois qu'il a eu des ballons pour centrer, ça n'a jamais trouvé preneur.
On attaque le dossier Giroud avec Mathieu qui est avec nous au 32-16. Salut Mathieu.
Salut les amis.
Salut Mathieu.
Bon, tu dis quoi toi? Tu dis bravo Giroud, il est indispensable, c'est notre héros, ou tu te dis c'est quand même étonnant ce qu'il arrive à faire. Enfin, quel est ton ressenti ce soir sur Giroud et donc son entrée gagnante, puisque c'est lui qui marque?
Alors je vais dire ni l'un ni l'autre. En fait, je pense que Giroud, c'est vraiment pour l'équipe de France, je pense que c'est un peu une mascotte. C'est-à-dire que c'est un joueur qui comme ça... de par un petit éclair, arrive à marquer un but dont on a besoin à ce moment-là du match. C'est un joueur qui est respectable et respecté, je pense, parce que malgré toutes les critiques qu'on peut avoir sur lui, il est toujours là, il se tait, il s'entraîne, il marque. Il a toujours été présent dans le groupe. Voilà, moi je pense que, par exemple, si on part à l'Euro, avec un Giroud qui n'a pas beaucoup joué à Chelsea cette saison, je pense qu'il faudrait partir avec lui, mais peut-être pas en tant que titulaire, mais pourquoi pas en tant que bon joker pour Didier Deschamps. Et c'est un bon soldat, ce Giroud.
Oui, mais si tu pars avec Giroud dans le groupe, comme tu dis, qui a quasiment pas joué, alors si en plus de ça, il joue plus du tout en équipe de France ou très peu, au bout d'un moment, la réussite qu'il a, très bien. Moi, il y a un premier ballon, il met une tête sur corner, voilà. Bon, après... Après, il est pas rentré longtemps, donc on va pas lui mettre sur le dos. Mais en Islande, c'est la même chose. Bon, il marque ce penalty, d'accord, mais il a servi à quoi, Giroud, en Islande? Et donc tu dis, si tu lui préfères d'autres joueurs. Ça veut dire que tu changes ton organisation parce que tu joues différemment. Parce que si tu joues avec Ben Yedder ou avec Mbappé dans l'axe ou avec un Pléa ou un Lacazette, moi je rêve d'avoir un Lacazette à la tête de l'équipe de France quand tu vois ce qu'il peut faire.
Après, je te parlais de ma compo, Jérôme, tout à l'heure.
Non, mais.
Pour l'Euro.
Quand tu joues avec Giroud, ça t'oblige de jouer d'une certaine façon. Moi, le jeu long où il dévie tout en une touche, où il est utile sur les coups de pied arrêtés, ok, mais ça t'oblige à jouer d'une certaine façon. Je pense qu'avec les joueurs que t'as et les joueurs de côté que tu peux avoir aussi, l'animation, elle peut passer aussi sur les côtés. Et là, si c'est sur les côtés avec des centres, Giroud, il peut être utile. Mais si c'est utiliser Giroud comme c'est depuis un bout de temps que sur des longs ballons avec des déviations et une touche parce qu'il fait que ça, excuse-moi, mais c'est très réducteur, quoi. Et c'est pour ça que le jeu de l'équipe de France s'en ressent. Et c'est pas contre Olivier Giroud, encore une fois, parce que moi je dis fabuleux. Il marque 38 buts en équipe de France, que ça soit contre Andorre, l'Albanie, l'Arménie ou l'Argentine. Moi je dis bravo, il faut les mettre, les buts. Mais j'ai envie de croire qu'on peut passer à autre chose. C'est tout.
Mais je pense, et t'as tout à fait raison, Jérôme. C'est pour ça, enfin. Moi, si tu veux, Giroud, je l'aime en tant que supporter de l'équipe de France. Je l'aime en tant que quelqu'un qui aime le football et qui aime aussi, qui aime pas les injustices. C'est-à-dire, c'est vrai que je dis pas que c'est vous, mais il y a énormément de monde qui le critique. Mais qu'est-ce qu'il faut encore là? Mais pourquoi?
Ah oui,
et lui, il arrive toujours à faire taire un petit peu ces critiques-là de par ses stats, de par ce qu'il arrive à faire sur le terrain, etc.
Moi, non, mais il y a quand même un truc, quand même, quand tu mets en perspective Giroud en équipe de France, donc pendant plusieurs années, ça a été pourquoi lui et pas Benzema.
Oui, absolument. Voilà. Ça a commencé
après,
comme ça.
Non, mais il a jamais, en fait, il y a jamais eu un moment.
Il y a jamais eu un moment.
Où tout le monde a dit, où il a fait l'unanimité, où tout le monde a dit, bah, franchement, Giroud, c'est lui et tout. Jamais.
Je te raconte, c'est quand même dingue. Giroud, c'est son destin. C'est sa vie. C'est-à-dire que Giroud, partout où il est passé, quand il est arrivé à Montpellier, on a dit, est-ce qu'il a le niveau de la D1, parce qu'il venait de D2. Quand il est arrivé à Arsenal, on a dit,
quand il arrive à Tours, on dit quoi?
Et ben, quand il est arrivé à Tours, figure-toi, on se demande d'où il vient, parce qu'il ne joue pas à Grenoble. Et qu'il y a un autre attaquant, qui s'appelle Tenema Ndiaye, qui a disparu aux qualifications, qui marquait plus de buts que Giroud. Et les gens qui regardaient que les buts au départ, tu voyais 10 buts pour Tenema Ndiaye, 3 pour Giroud, parce qu'il jouait beaucoup en déviation pour l'autre attaquant. Sauf que c'était lui le meilleur, l'autre il a disparu. Mais si tu veux, Giroud, c'est son destin. Donc lui, le mental qui s'est forgé, il se l'est forgé justement par ces situations-là. Il y a un autre joueur dans ce cas-là en équipe de France, c'est Matuidi. Il va être remplaçant, il jouera pas. Il est titulaire. Il sera pas là, machin. Vrai, il est dans le groupe. Donc Giroud, ce mental-là, il s'est forgé comme un Hernandez pour d'autres raisons, familiales, sociales, etc. C'est ça qui fait la force de ce groupe. Donc il sera à l'Euro sans doute et probablement. Bon, et moi, pour revenir au système.
Il a fini sa carrière à Chypre, sache-le.
Ah bon, pas ma gousse.
Mais attention, parce qu'il y a un autre joueur en équipe de France qui peut être comme ça plus tard. C'est pas rare.
C'est
parce que j'entends que Benjamin Pavard se fait critiquer constamment. Sur son jeu, tout ça, pour l'instant, moi je pense qu'on a pas mieux,
c'est un bon gars, mais c'est la mentalité, mais sur le terrain c'est difficile. Mais juste pour finir sur Giroud, puisqu'on parlait du problème tactique, je suis d'accord avec toi, mais l'intérêt, je parlais du groupe justement, parce qu'il va, évidemment, il a plus une allure de remplaçant ou de joueur. Ouais. De remplaçant au sens justement coaching. C'est typiquement pour moi le joueur de coaching. Ouais, ouais. C'est-à-dire que tu te dis à un moment donné, on n'y arrive pas comme ça, on va changer, on va jouer, on va varier notre jeu. Parce que sinon, tu vas avoir à l'inverse plein de petits joueurs rapides, effectivement, et du Ben Yedder, et de Ikoné, et Coman, et Lemar, et machin. Donc, il est complémentaire des autres joueurs. Peut-être qu'il jouera beaucoup moins que les autres, mais je trouve que c'est une chance d'avoir un joueur comme ça. Après, pour je m'attendais pas, pour être très très honnête, et pour être un fervent soutien d'Olivier Giroud, je m'attendais pas à ce qu'en 94 sélections, enfin qu'il en ait autant, et qu'il marque 38 buts en 94 sélections. Et ce qui fait, pour ça, remarquable.
Là, il peut remercier à vide. Il y a des champs, de toute façon, il y a quelque chose entre les deux et ça se respecte. Il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, s'il joue pas ou peu, ou si ça s'améliore pas au mercato d'hiver pour Olivier Giroud, je vois pas comment il pourrait faire l'euro. De toute façon, ça va pas s'arranger à Chelsea parce qu'il est bien en retrait des autres attaquants et il y en a pas qu'un.
Il bougera pour jouer.
Donc j'espère qu'il trouvera un club qui lui permet de jouer et surtout de garder un niveau international.
Moi je pense que même s'il reste à Chelsea qui joue possible, peu, ça, il le prendra quand même.
Mais déjà là, c'est
le groupe. À chaque fois, il te dit ça.
Arrête de me dire le groupe, parce que dans le groupe, je suis désolé.
Moi, je te dis ce que Deschamps dit.
Mais non, mais Deschamps, on l'a entendu. Il faut aussi que ça s'améliore pour lui en club. Ça, c'est sûr. Tu peux pas te permettre que Giroud, il passe sa vie sur le banc de touche, voire hors du groupe. C'est pas possible. Ça s'est jamais vu. Déjà là, le fait d'être appelé en sélection, d'avoir joué quasiment un match complet le premier match et d'être rentré sur le deuxième match, c'est déjà un miracle pour lui par rapport au temps de jeu qu'il a. Donc, et moi je veux bien, pas de remplaçant ou pas, Olivier Giroud, dans les caractéristiques d'Olivier, peut-être, il n'y en a pas, sinon certainement que Didier Deschamps appellerait un autre joueur. Mais je suis désolé, t'es pas obligé d'avoir un profil comme lui. Il y a des attaquants, on a la chance d'avoir aujourd'hui en France des attaquants qui jouent en France ou en Europe, dans les grands clubs, qui marquent des buts et qui font tourner le compteur tous les week-ends et qui sont importants pour leur club. D'ailleurs, je peux t'en citer, il y en a plein. Et la preuve, c'est qu'ils commencent à appeler Pléa. J'en reviens, je m'obstine sur la casette, mais j'espère qu'un jour le délit de sale gueule entre guillemets, parce que c'est un petit peu ça que Didier Deschamps fait avec la casette, ça puisse s'arranger, parce que la casette, il mérite tous les jours de jouer dans cette équipe. Quand tu fais jouer Ben Yedder dans ce rôle-là. Mais la casette, je suis désolé, la casette, il est bien meilleur que Ben Yedder dans tout ce qui est remise.
Oui, mais la casette, il est pas dans les radars de.
Oui, mais il est pas dans les radars. Au bout d'un moment, c'est pour.
Je suis comme toi là-dessus.
C'est pour le bien de l'équipe de France. Moi, je te dis, Olivier Giroud, c'est pas encore faire une fixette sur lui. Il marque 38 buts, très bien, c'est magnifique. Mais rappelle-toi. à part son pénalty contre l'Islande, qu'est-ce qu'il a apporté contre l'Islande quand ça devient dur? Et c'est pas le seul match.
Pénalty qu'il aurait peut-être pas tiré si Griezmann s'était pas fait mal
Certainement, même il l'aurait pas tiré.
Sur le coup de l'action, quoi.
Ouais, bon, après, il l'a bien tiré, tant mieux pour lui et tout ça. Là, il rentre, la réussite du changement de Didier, comme souvent, il rentre, premier ballon, bam, Giroud, il te met la tête sur corner, c'est magnifique. Mais il y a beaucoup de manque quand il joue, je suis désolé.
Mathieu, merci beaucoup en tout cas.
Merci les gars, à bientôt.
Salut Mathieu, bonne soirée. Tu rappelles quand tu veux dans l'after, évidemment. Alors, j'aimerais quand même qu'il y ait un autre joueur qui a peut-être été, on peut passer tranquillement à l'évaluation, mais qui a sans doute été l'homme du match, les gars. C'est Griezmann.
Bah, Griezmann, il est.
Sur les deux matchs, là, ouais. Islande et Turquie, franchement.
Alors, le leader,
le mec number one, c'est Griezmann. On parle beaucoup de Giroud qui a marqué.
C'est le leader sur le terrain. Enfin, c'est clair dans sa façon de jeu. C'est lui qui demande aux autres d'aller tirer. Il demande à Coman, va tirer le corner. Il choisit son tireur. Il est là. C'est lui qui a l'occasion. Avec à la finition, je me demande presque. Après, il a un tel abattage aussi. Il fait tellement de courses que je me demande presque si parfois ça nuit pas dans la conclusion. Parce que bon, voilà, sur la petite balle piquée, là, lui qui a techniquement largement les moyens de le faire, il le fait pas. Bon, c'est en première période, je sais pas. Mais en tout cas, c'est clair que c'est un exemple. Et c'est un joueur à qui il faudra pas demander non plus. Il a besoin de courir en fait, ce joueur. Il a besoin d'aller récupérer, il a besoin d'aller tacler. Alors mine de rien, c'est lui qui fait la faute à la suite de laquelle il y a le coup franc et qui amène le but turc. Donc bon, voilà, il fait des fautes d'attaquant aussi, mais il défend, il fait beaucoup pour
sur le but turc. Mandanda peut pas la sortir,
je vais y revenir. Avoir le marquage aussi qu'il lâche.
Ouais, c'est vrai.
Donc non, mais moi je rejoins de toute façon sur Griezmann. On a beaucoup de certitudes, et surtout quand il joue avec le maillot de l'équipe de France, il a ce rôle de numéro 10 quasiment. Il est là au début des actions, il donne beaucoup, il court. La complicité, la complémentarité avec Coman. Un joueur technique aussi. On voit qu'il y a beaucoup d'aisance technique entre les deux, même avec Ben Yedder, même si ça s'est éteint sur la deuxième mi-temps avec Ben Yedder. Moi, j'ai hâte de voir Mbappé en pleine possession de ses moyens pour voir ce que Didier Deschamps va mettre en place. Parce que j'estime que par rapport au dernier match en sélection de Coman, s'il reste à ce rythme-là, Coman, il doit jouer dans cette équipe. Donc si Coman y joue, Mbappé, il est indispensable. Comment t'organises Griezmann, Mbappé et Coman? Est-ce que t'en mets un en point? C'est-à-dire Mbappé, et tu laisses Coman, Griezmann, et puis là,
Griezmann, il veut jouer plutôt dans l'axe en 9,5. Ouais. Il est dans le cœur du jeu. Après, ce que j'ai trouvé remarquable avec lui, comme d'habitude, c'est que quels que soient les coéquipiers qu'il a autour de lui, il les fait, enfin, il essaie, parce que côté Sissoko, à un moment donné,
on va écouter Antoine Griezmann, justement.
C'est comme ça, comme quoi on n'est pas parfait. Il va falloir travailler pour s'améliorer dans cet aspect. Et après, je pense qu'on a fait un gros match avec beaucoup d'occases et il nous manque encore cette petite chance devant le but et va falloir la trouver.
Comment vous l'avez trouvé cette ambiance, 30 000 supporters turcs au Stade de France?
C'était beau, voilà, autant de supporters à l'extérieur, c'est chapeau. C'est un pays qui aime sa sélection, qui aime le foot et tant mieux pour eux. Après, nous on a aussi senti nos supporters. C'était un peu une bataille entre eux, savoir qui faisait plus de bruit, mais voilà, après je pense que c'était un beau match aussi pour les spectateurs qui se sont plaints du match contre l'Islande. On voulait absolument gagner, on n'a pas pu, on a tout fait pour, mais on n'a pas eu cette chance devant le but.
Il y a une question qu'on vous pose à chaque fois, c'est sur Olivier Giroud, mais on va remarquer. Est-ce que ça vous surprend que lui, il ne joue pas dans son club, avec ses performances en équipe de France étincelante?
Moi non plus, j'ai pas joué le dernier match. Après, chaque entraîneur a ses joueurs, sa tactique. Le plus important pour nous, c'est qu'il fasse ses matchs qu'il a avec nous en sélection. Voilà. Même s'il ne marque pas, il nous fait du bien, que ce soit dans les gelons, dans les remises, quand on va s'appuyer sur lui. Donc, c'est notre Olivier, il nous fait énormément de bien. Et c'est à nous après de le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il soit en pleine confiance et qu'il soit le mieux possible avec l'équipe de France.
Il vous fait du bien, mais l'équipe de France lui fait du bien aussi.
Sûrement, je pense qu'à tous les joueurs, l'équipe de France fait du bien parce qu'on est à Clairefontaine, même si beaucoup de fois on se plaint qu'on est enfermé. C'est un magnifique château, une magnifique sélection, un grand entraîneur. Ça fait toujours plaisir à n'importe quel joueur de venir.
Et voilà, tout est beau et magnifique. L'équipe de France, il y a un beau château.
Ah, la langue de bois.
Bah oui, bon, bah c'est.
Au moins, il a donné les caractéristiques de Giroud. Il nous fait du bien, même quand il touche pas le ballon.
Mais on peut s'appuyer sur lui.
On peut s'appuyer sur lui de temps en temps.
Du coup, je t'ai coupé pendant qu'on parlait de Griezmann pour.
Non, je voulais dire qu'il.
Pour entendre Griezmann justement.
Ouais, il fait jouer les autres puisqu'il demande beaucoup d'appui. Et c'est vrai qu'à ce titre-là, sur le côté droit, à un moment donné, avec Sissoko, c'était un petit peu moins évident. Avec Coman, ça marchait bien. Avec Ben Yedder, ça a pas si mal marché. Ouais. Je veux dire que lui, on lui propose plein de joueurs différents. Et lui s'adapte toujours avec son style de jeu et son abattage. Par exemple, avec Giroud, il le fait. Avec Mbappé, évidemment, il le fait. Avec Coman, il le fait bien. C'est un joueur, quand même, cet esprit collectif, c'est vraiment un mec dans l'état d'esprit, quoi, qui est un vrai leader de terrain. Je ne pense pas que ce soit un leader incroyable, peut-être, dans le vestiaire. C'est un gars qui est un exemple pour les gars. Regarde, il dit lui-même, j'ai pas joué, on sait que Barça, c'est pas forcément évident. Le gars, il fait ses matchs sans problème. Je pense que pour tous les jeunes qui arrivent et qui voient Griezmann, ils doivent se dire, waouh, le mec, ouais. il se défonce.
Et puis, non, mais t'as raison de dire qu'il s'adapte parce qu'il est quand même habitué, Antoine, à jouer depuis pas mal d'années avec des attaquants qui sont des points d'appui. Que ça soit l'Atlético Madrid avec Diego Costa, que ça soit en équipe de France avec Olivier Giroud, maintenant avec Suarez, et plus ça va, et plus c'est un gros point d'appui, Suarez. non mais c'est vrai qu'il s'adapte et aujourd'hui tu lui donnes c'est pour ça que j'ai aimé son association avec Ben Yedder, c'est que Ben Yedder il a totalement un autre profil. Ben Yedder il est aussi capable de faire du Griezmann, à venir décrocher, participer au jeu, et là il s'adapte dans ses déplacements, donc ça c'est bien. Et moi, c'est pour ça que je te disais que quand Mbappé va venir, j'espère que Mbappé va pas être mis sur le côté droit comme on était habitué à le voir. C'est que pourquoi pas s'adapter aussi au jeu d'Mbappé dans l'axe. On l'a déjà vu par moment, mais je pense que ces deux jeux peuvent être complémentaires parce qu'Antoine il aime donner la passe décisive aussi. Il a le jeu de passe en lui, et je suis sûr qu'avec la vitesse d'Mbappé, les bons déplacements d'Mbappé dans l'axe, ça peut faire mal. Imagine avec un Coman sur un côté. Il peut y avoir pas mal de choses intéressantes dans le futur, donc j'espère vraiment que Didier Deschamps voit les choses comme ça.
Alors le foot est fabuleux, puisqu'on vient de me communiquer une statistique. Griezmann, c'est sa pire série sans marquer en équipe de France.
587 minutes.
Ça fait 587 minutes qu'il n'a pas marqué, c'est un putain de scandale quand même.
On va avoir le même style de
débat avec Benzema.
Ouais. Giroud, Benzema, ils sont tous passés par là. Mais attends, il y a aussi un.
Ah mais là, il est tellement utile de toute façon.
Mais c'est
grotesque.
Non, mais il tire les pénaltys et là, il n'a pas pu tirer le sien. Ce serait déjà réglé.
Il en a raté entre temps, tu me diras.
Il en a raté en plus deux.
Ce serait peut-être pas réglé.
C'est vrai, t'as raison. Il l'a peut-être raté. C'est vrai qu'il a bien fait de
laisser à Giroud. Ça commence à faire quand même pour un attaquant.
À la limite, et on s'en fout.
Ah, complètement.
Vu de toute façon le rôle qu'il a sur le terrain, ce qu'il t'apporte.
Je pense que lui, il s'en fout pas, Gilbert. Autant il fait un bon match et je trouve que il a de la personnalité dans le jeu, mais comme on n'apprend rien, mais il est quand même dans une période difficile à Barcelone, et que là, le fait d'arriver en stage d'équipe de France, comme il le dit, même s'il le dit avec un peu trop de langue de bois, quand il dit c'est tout magnifique à Clairefontaine, ceci. Pour lui, je pense que ce stage-là lui a fait un bien énorme. Là, il a engrangé de la confiance, de la sérénité. Ça s'est senti dans son jeu de passe et tout ça. Et
tu veux dire que s'il avait mis le but décisif là, ça aurait été la cerise sur le gâteau.
Ouais, je pense qu'il aurait bien fait tourner le compteur.
Je pense qu'il y compte, mais il a un truc quand même, à la différence de Benzema ou Giroud qui ont eu ces périodes-là, on en a parlé parfois, il y avait des disettes. C'est encore pire pour le vrai neuf.
Ouais.
Qui marque pas, qui dans ses rôles uniques comme Giroud. Si Giroud en plus il marquait pas, par
Benzema à l'époque.
Voilà.
Mais non, mais parce que Benzema,
que
on va pas revenir dessus. Mais Benzema, maintenant il le fait au Real. Mais avant au Real, il vivait un petit peu dans l'ombre de Ronaldo quand il était en équipe de France, et que il arrivait en équipe de France, c'était lui le buteur, le numéro 9, le Giroud, quoi. Et en fait, Benzema c'est pas ça. Du moins, sauf si t'as des joueurs autour qui jouent pour lui. Mais c'était pas le cas à l'époque.
Un partout entre la France et la Turquie dans quelques instants. Laurent et Fatih pour conclure sur les Bleus. Et ensuite, on parlera de l'arrivée de Rudy Garcia à Lyon avec plein d'infos à partager et des débats à suivre donc ce soir dans l'After concernant le nouveau coach de l'OL. À tout de suite dans l'After.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot. Gilbert Bribois.
Florent Gautreau est là, Jérôme Rotten est là, l'équipe de France toujours au programme avant de parler de l'OL. Laurent est avec nous et ensuite ce sera Fatih pour parler de la Turquie. Salut Laurent.
Salut l'After.
Salut Laurent. Ça va?
Oh ben moi je suis hyper heureux. Hyper heureux de la soirée.
Un partout, t'es content?
Hyper heureux. Ben non, mais je vais être très honnête avec vous. Moi, je suis souvent passé dans l'After, je vous suis depuis des années, et c'est un peu mon rendez-vous. À chaque fois que je vous parle, je suis dans une ville différente, parce qu'avec mon boulot, je bouge tout le temps. La dernière fois que je vous ai eu, c'était à Cannes, le soir de la victoire de Tottenham au mois de mai. Mm-hmm. Et en fait, je suis hyper content. J'essaie d'être très concis, en une minute. En 2014, j'étais passé à l'antenne quand tout le monde critiquait l'équipe de France pour sortir cette phrase de Joachim Löw qu'il avait donnée dans le magazine Bild, où il disait, à l'issue du mondial, sincèrement, la seule équipe qui aurait pu nous battre, c'était les Français en quart. Ils ont une génération qui arrive qui est extraordinaire. En 2016, j'étais passé pendant l'Euro quand on se faisait critiquer à l'issue du premier tour en disant, les gars, je pense qu'on va être allé en finale ou qu'on va être champion d'Europe. J'étais pas trop loin de la vérité. Parce qu'en fait, on a une équipe pragmatique qui est en train de se construire sur ce qu'est Deschamps, et Deschamps, il est en train de créer une famille. Parenthèse, quand Jérôme, tout à l'heure, tu disais le plaisir qu'un Griezmann peut avoir ou un Giroud de revenir en équipe de France, de se ressourcer pendant 15 jours, c'est ça qu'il a créé. Deschamps, il a créé une famille, une tribu, une mafia, qui fait qu'on est une équipe soudée. Et en fait, cet après-midi, j'étais en rage. J'ai écouté l'émission de Duga, le Standard m'a rappelé pour que je passe à l'antenne, mais j'étais parti jouer parce que je jouais en début de soirée. Et en fait, j'étais en colère contre Duga. Je crois qu'il m'avait pas mis autant en colère depuis un match de Birmingham qu'il avait joué en 2004-2005. Ouais. Vous avez vu.
C'est toi qui l'avais vu, celui-là. Hein.
Bah ouais, mais je suis beaucoup de foot depuis des années. Je suis un ancien Angel, hein. Je suis un ancien Green Angel de Stéphanois et... J'ai vraiment suivi le foot depuis 20 ans, c'était ma vie. Bon, maintenant, j'ai ma femme et ma petite fille, je me calme un peu, mais c'est toujours le foot. Et en fait, j'étais en colère parce que j'en ai ras-le-bol. Je suis tellement fan de foot, vous savez, ce week-end, j'ai revu les matchs après. Mais pas que le match de l'équipe de France. Je me suis tapé le Pays-Bas, Biélorussie, le Allemagne-Estonie à 10 contre 11, où ils gagnent 3-0, le Italie-Grèce, le Norvège-Espagne. Et putain, faut arrêter. Ce soir, vous avez été super, les gars. Vous êtes objectifs, vous êtes honnêtes. Dans l'After, vous l'êtes souvent.
Oui, mais quand contre Daniel, l'Islande, un peu plus calme. Contre non, l'Islande, ils étaient mauvais.
C'est vrai que.
On peut le dire aussi.
Ouais, ouais.
Tu vois.
Non, mais ouais. De toute façon, après, ça n'empêche que bon, chacun voit son bonheur aussi. Quand tu analyses les matchs, on en voit beaucoup des matchs. Il y a ça aussi.
Non, mais le constat que Laurent fait sur Deschamps, on le partage tous. On peut très bien ne pas adhérer à la stratégie et à sa façon de faire.
Il y a juste un truc que je combats, et depuis un bout de temps, rappelle-toi, ça date de la Coupe du Monde, où j'étais peut-être un des seuls à essayer de défendre, je te dis pas que je les voyais champions du monde, quand tu vois la qualité de nos matchs du premier tour.
Oui, bah ça fait personne les voyait.
Je défendais ce qu'ils mettaient en place et la relation du groupe, parce que ça, il sait très bien mettre ça en place, c'est sa qualité première, c'est ça, c'est de réussir à fonder cette vraie famille, un groupe uni, et ça on peut pas le critiquer là-dessus, mais moi je le défends, c'est que bien sûr qu'il fait attention, encore la composition de départ de ce soir, il fait attention à l'équilibre de l'équipe plus qu'à comment on va mettre en danger avec le ballon l'équipe adverse, ça on est d'accord, il l'a toujours fait, moi il le faisait avec nous à Monaco et tout ça, par contre il te bride pas, quoi. Et c'est là-dessus que je le défends, parce que sur le match de ce soir, c'est les joueurs qui détiennent les clés, en fait, offensivement. Oui. Et quand t'as une équipe en face qui défend, eh ben, moi, il les libère, quoi. Il dit pas à Pavard ou à Hernandez, ne montez pas, attention, catastrophe. Si vous montez, on va être déséquilibré. Il dit pas à Tolisso, viens, t'as pas le droit de t'incorporer dans la ligne d'attaque. Il dit pas à Sissoko, viens finir devant le but. Au contraire, même. Il les pousse à ça. Et ce que fait Sissoko. Alors après, avec leurs qualités techniques qui vont avec leur style de jeu, c'est vrai que quand tu mets Sissoko côté droit, tu peux pas attendre qu'il fasse du Mbappé.
Mais Jérôme, donc on en revient. Et Laurent, je te réponds aussi. Je te dis, ok, moi je suis d'accord avec toi pour dire que ce soir c'était plutôt une bonne équipe de France, mais
et c'est souvent le cas à domicile.
Ouais, mais pourquoi on est si critique vis-à-vis de Deschamps là ? J'ai pas écouté tout de l'émission Team Duga, mais pourquoi on est critique ? Parce que moi, quand je regarde la compo avant chaque match, à chaque fois, je me dis, oh merde.
Faire chier.
Alors c'est pas toujours le cas. Tu vois, ce soir, ça n'a pas été le cas. Les joueurs sont bons. On a une bonne génération.
C'est bien de le reconnaître.
Mais moi je le reconnais. Non, mais Laurent, attends, juste pour finir. Donc oui, je te dis juste que je comprends que toi, tu as envie qu'on soit un peu plus positif. Je pense qu'effectivement, il y a des joueurs et que les joueurs, comme dit Jérôme, ne sont pas bridés. Mais il ne va pas. Je pense que Deschamps lui-même a gardé un fond de. C'est l'assureur que j'aurais pris moi s'il était commerçant, Deschamps. Je pense qu'il a un fond comme ça. Il a un fond d'épicerie, un fond d'épicier, un fond d'assureur qui fait qu'il va jamais lâcher les chevaux en se disant c'est pas un souci. Les Turcs ils sont tous très bas. Comme disait Jérôme tout à l'heure, t'as Matuidi, t'as Tolisso. Je rajoute un Sissoko. Vas-y, lâche-toi, mets les joueurs qu'il faut. Après, là où je suis d'accord, c'est que c'est un gars qui va mettre en confiance des joueurs. qui va nouer une relation particulière, qui va faire qu'ils sont en confiance comme Giroud, qui va lancer un Ikoné au bon moment, qui va garder sa confiance à Coman. Il l'a pris tôt, Coman, quand tu regardes. Oui, il l'a pris tôt et depuis longtemps. Donc oui, moi il faut reconnaître tout ça. Moi je dis juste un truc, et on va pas prendre le foot à Deschamps. C'est juste la compo. Tu vois, la compo et les changements, comme disait Jérôme tout à l'heure. Il y a encore des trucs où tu te dis...
Sur les changements, on ne se dit pas, mais sur la compo, sincèrement, les gars, vous prenez toutes les interviews des différents sélectionneurs qu'on a pu affronter depuis que Deschamps est en place. Ça fait longtemps maintenant, il est arrivé en 2012. Ouais. Le nombre de mecs qui disaient, mais vous rendez compte, en équipe de France, les gars que vous n'emmenez pas, les gars qui sont sur le banc, qui sont tous titulaires dans les plus grands clubs européens, sur le papier... En termes de qualité, vous avez les meilleurs joueurs du monde. Ouais. Ce soir, ce soir, excusez-moi, je suis vulgaire. Mais on a trois mecs qui sont titulaires au Bayern de Munich.
Ouais.
On a un gars qui
est titulaire à Tottenham. Laurent, sur la compo du groupe. Ouais, mais moi là où je suis du verbe suivre Deschamps, c'est sa capacité à faire le groupe. C'est-à-dire que moi, qui ne prenne pas un joueur, qu'il assume le fait de pas prendre un Benzema, même un Lacazette ou comme toi, je suis pas d'accord, mais il assume, il fait son truc. Moi, c'est plutôt une fois que t'as ton groupe qui est fait, t'es 23, t'es 22, t'es 25. Ouais. C'est la compo que tu mets en place et c'est ce que tu veux faire tactiquement et dans le style. Après que tu fasses tes choix comme Jacquet, là il est vraiment l'héritier de Jacquet, faisait ses choix en assumant, en disant je prends pas Cantona, je prends pas un tel, je prends pas un tel et je me débrouille avec les gens que j'ai, mais je vais essayer de faire quelque chose de pas mal avec, ok. Sauf que Deschamps maintenant, quand t'as des coachs qui font progresser leur équipe au fil des années et tu te dis oui, on a commencé en assurant les fondations, mais maintenant qu'on sait ce qu'on est capable de faire, qu'on est équilibré, on va quand même proposer autre chose. La déception, elle est là. Elle est que tu gagnes. En plus, tu gagnes un super titre. T'es champion du monde, il n'y a rien à dire. Mais t'as pas, tu rêves pas, tu bats pas devant l'équipe de France. T'as plus
peur. On conclut, Laurent, le mot de la fin pour toi. Vas-y.
Non, mais je vais conclure juste en vitesse. Pour moi, c'est une immense hypocrisie. Parce que la finalité, on la sait tous. Il l'a encore redit ce soir à la fin du match. Deschamps, la seule chose qui l'importe, c'est le résultat.
Ah ben non, mais c'est la
gaine, il n'y a pas de visée tactique, il n'y a pas de visée de niveau de jeu, c'est le résultat, les résultats amènent tout. Et je vais vous laisser, pour laisser la place à Fatih, juste faire un petit hashtag, énorme bisou à Jérémy Lopez, que vous connaissez ici, qui est un de mes super potes de théâtre, parce que c'est le gros fan de l'Olympique Lyonnais, et moi je suis le gros fan de Saint-Etienne, et on n'arrête pas de se chambrer. Ce soir, mon ami Jérémy Lopez, je me marre. Bonne chance avec Garcia.
Salut Laurent, on va en reparler dans quelques instants. Allez, on conclut avec Fatih, qui est supporter turc. Salut Fatih.
Bonsoir à Fatih. Tous.
Enfin, turc ou franco-turc ou quel est... T'étais pour qui ce soir?
Non, j'ai la chance d'être un franco-turc et je suis plutôt content du résultat. Par rapport à,
ça te
par
convient,
rapport
quoi.
Contexte. Ouais, par rapport à tout ce qui s'est passé autour, en plus, avant le match.
T'en as pensé quoi, tout ce qui s'est passé aujourd'hui, là, les demandes d'annulation du match, les politiques qui, toute la journée, sont déchaînées?
J'ai eu des potes qui étaient au stade au téléphone et ils m'ont dit que les supporters turcs avaient applaudi la Marseillaise.
Ouais. Pardon. Oui.
Donc j'étais plutôt fier par rapport à ça, parce que voilà, ça a fermé un peu la bouche à tous nos politiques. Je veux pas citer leur nom pour pas leur donner plus d'importance, mais voilà, on a fait beaucoup de buzz, on a fait beaucoup de trucs, on a fait monter la mayonnaise pour rien. Franchement. Donc ça a été une belle réponse. Après, par rapport au match, ouais, déçu de la première mi-temps, et qu'un Zantoufan qui était catastrophique. Puis je pense que ils ont essayé de tenir le résultat en deuxième mi-temps avec
ils ont quand même manqué d'ambition, les Turcs, je trouve, moi. Ils auraient peut-être pu
tenter quand même un peu plus. En première mi-temps, j'étais en colère, mais après, au bout d'un moment, je me suis dit, il va essayer de tenir le score jusqu'à la mi-temps et puis essayer de les faire douter, et puis faire quelque chose en deuxième mi-temps. C'est ce qu'il a essayé de faire. Après, on peut pas lui en vouloir non plus. On a joué contre les champions du monde. C'est pas la même qualité de. Enfin voilà. Ben, je vous écoute depuis tout à l'heure. C'est un peu des problèmes de riches qu'on a en France avec tous les joueurs qu'on a. Mais ouais, non, dans l'ensemble, ça a été un bon match. Ouais, encore une fois, par rapport au contexte. Ouais, c'est bien, même par rapport au classement, je suis content.
La Turquie, y est quasiment.
Ouais, ils sont quasiment.
Ouais, non, en plus, la France joue l'Islande, donc je pense qu'ils vont les taper. Et après, moi qui tape
l'Islande. Non, la France joue plus l'Islande.
La Turquie joue l'Islande.
Turquie-Islande prochain.
En Turquie.
Ouais, mais la France joue pas l'Islande.
Non, c'est fini.
Autant pour moi.
On a eu la purge.
On joue la Moldavie. Et en Albanie pour la France.
C'est bon. Voilà.
Juste, je ne sais pas si vous voulez encore rebondir sur ces histoires politiques, en remerciant Fatih, mais c'est quand même assez incroyable. Alors, moi, je ne veux pas porter de jugement sur l'intervention turque ou quoi, mais sur le discours du jour sur mélange de politique et sport. C'est-à-dire que t'as beaucoup de politiques qui aujourd'hui disent oui, il faut pas mélanger politique et sport. Et puis les mêmes se féliciter de l'éventualité d'un Algérie-France qui est éminemment politique, je veux dire comme match. Et puis certains d'entre eux ont même publié une tribune dans Le Monde, je crois, il y a quelques jours, pour expliquer que la Coupe du Monde au Qatar, c'est super. Mmh. Donc en fait, eux-mêmes, les politiques parlent en permanence et mélangent en permanence politique et sport. Et puis aujourd'hui, ils se réveillent en disant bah non, en fait, c'est pas bien. Il faut pas mélanger politique et sport. Bon.
Non, mais de toute façon, le foot est toujours l'objet, c'est toujours l'instrument. Dans un sens politique, ou dans un autre. Oui, mais ils en font un truc politique. C'est ce que moi, je reproche à ça, c'est que j'ai envie de laisser le foot là où il est. Il va rien régler. Et en faisant ça, il pourrait plutôt mettre de l'huile sur le feu. Pour revenir à des trucs purement footballistiques, à noter quand même que les deux changements des sélectionneurs ont permis aux deux buteurs qu'ils avaient fait rentrer de marquer. Donc c'est plutôt, voilà, quand on dit coaching gagnant, c'était le cas ce soir.
Bon, voilà. Le Turc encore, d'accord.
Mais, le Turc 53e.
Didier, non, pas ce soir.
Allez, dans quelques instants, Lyon au programme. On va vous raconter les coulisses de l'arrivée de Rudy Garcia. Ah. Et évidemment, on vous attend supporter le Lyonnais, satisfait ou pas.
Le golf. Il y a des feux d'artifice, je suppose. Le nouvel entraîneur, ils doivent être heureux.
Apparemment, ils sont assez partagés quand même, les Lyonnais. Enfin, on va raconter tout ça et on vous attend pour réagir au 32-16. A tout de suite.
RMC. L'After Foot. Gilbert Bribois.
Jean Brantaine est là, Florent Gautreau est là, Lyon au programme. Juste avant de conclure, quand même, le Griezmann, on l'a pas entendu dans sa réaction, mais quand même assez contrarié par le résultat et saoulé. Hein. On l'a vu d'ailleurs discuter avec Deschamps de façon un peu, enflammé.
En forme de choses.
Oui, voilà, peut-être le fait de pas marquer et puis de pas gagner ce soir. Bon, en tout cas, il était pas très joyeux.
Mais en ce moment, Fred Hermann nous en parlait. Cette frustration, elle existe, elle est chez lui. Et moi, je trouve ça sain d'ailleurs. Parce que le gars, il est complètement à bloc sur le résultat et pas que sur sa perf perso, tu vois. Et là, il est effectivement saoulé du résultat. C'est plutôt bien.
Alors, Lyon, je vous raconte, vous retrouvez tout sur rmcsport.fr. Rudy Garcia a fait la différence lors de son entrevue avec les décideurs lyonnais. Comment ça s'est passé? Blanc, Gourvennec et Garcia se sont retrouvés face à un trio composé de Jean-Michel Aulas, Juninho et Gérard Houllier, qui était là. Ce qui est d'ailleurs grandement surpris Laurent Blanc, vraisemblablement. Je se retrouve face à Gérard Houllier, genre revival France-Bulgarie, tu vois. Il s'avère que Garcia a particulièrement impressionné ce trio. Il est arrivé, Garcia, en ayant vu tous les matchs, en ayant analysé tous les matchs, en pointant ce qui allait pas, ce qui allait bien, avec des axes stratégiques pour redresser l'équipe, avec un vrai plan qu'il a présenté aux décideurs lyonnais. Apparemment, Laurent Blanc, c'était pas vraiment le cas. Il n'est pas arrivé avec autant de billes.
Avec la taille des clubs pour le 18 trous de Caluire.
Ensuite, autre élément. Blanc voulait venir avec Gassé, préparateur physique et Passy. Ce qui signifiait quand même un certain nombre de licenciements.
Ah bah c'est tout le staff assumé par l'OL. Tout le staff refait. Donc
lui, Garcia vient avec le seul Fichot. Il se passe même de bon part son adjoint historique. Voilà. Donc en fait, tout s'est joué Non, Fichot vient,
Bompard qui vient pas.
Donc tout s'est vraiment joué finalement lors de ces entretiens. Tout à l'heure, dans Team Dugas, on débattait et Dugas dit mais moi je comprends pas, c'est n'importe quoi. Quand tu peux avoir Blanc et Gassé, comment tu peux leur dire non? Voilà. En tout cas, voilà, Garcia a fait la différence là-dessus. Il avait préparé son truc, il avait bossé vraisemblablement de façon très intense pour l'emporter lors de ce grand oral. Et donc il est présent à Lyon aujourd'hui, on a vu les photos avec Juninho et conférence de presse demain. Sur la méthode, c'est vrai que ça ressemble pas tellement à un club de foot, ça ressemble plus à un recrutement de cadres supérieurs d'une grande entreprise. Jean-Michel Aulas connaît ça par cœur, évidemment. On n'a pas recruté au CV ou au ressenti, on a recruté sur des éléments tangibles.
Au d'un moment,
ça a l'air de choquer Jérôme.
Bah oui, parce qu'il faut arrêter la mascarade, quoi. Ce que je veux dire, c'est que tu fais des entretiens, ok, mais tu fais des oraux pour des entraîneurs qui ont une expérience, un passé de joueur, un passé d'entraîneur, qui parle pour eux, quoi. Tu vas apprendre quoi? Parce que là, tu me dis, moi, il y a des choses qui me choquent. C'est-à-dire que Rudy Garcia, et ça, c'est bon pour lui, hein. Ce que je vais dire, c'est que ça sent que c'est un passionné. Déjà, parce que, ses conditions sont, c'est vraiment au minimum hein, ce qu'il a demandé, c'est-à-dire venir avec un adjoint et tout accepter, même financièrement a priori il a pas voulu négocier. Alors il a un bon petit salaire, attention hein, je te dis pas que, mais c'est pas le salaire de Laurent Blanc certainement et les conditions de Laurent Blanc, mais que Rudy Garcia soit plus passionné que Laurent Blanc, c'est criant, on le dit de toute façon. Déjà s'il veut rebondir après sa période marseillaise,
là vraisemblablement plus bosseur aussi.
Non mais plus bosseur, mais pourquoi le tableau noir fait la différence. Non, mais il faut arrêter les conneries. Aujourd'hui l'entraîneur de foot, c'est pas que ça, c'est pas que un tableau noir. Moi demain je suis pas entraîneur, j'ai pas le statut et le CV de Rudy Garcia en tant qu'entraîneur. Je peux te dire que je vais t'en faire du tableau noir. J'ai vu tous les matchs de Lyon, je les ai même commentés, donc j'essaye de voir ce qui va pas et tout ça. Donc en fait je vais devant eux, je leur oh putain, ils se disent merde, putain il est bon hein, en stratégie, il a vu les manques et tout ça. Mais après les voir c'est une chose, après les constater, mais après faire en sorte et mettre dans la tête des joueurs que ça va changer. Je pense que les Lyonnais, c'est pas changer tactiquement, la révolution elle sera pas du côté tactique avec ce tableau noir, ça va se faire dans les têtes, savoir comment il arrive à transmettre plus d'énergie, plus de professionnalisme dans ce groupe lyonnais. C'est plus ça là-dessus. Et je suis désolé, mais moi je reste sceptique sur Rudy Garcia, surtout sa période marseillaise. La première année magnifique, on l'a dit, du moins magnifique en termes de résultats avec cette finale d'Europa League. Mais sinon, après le reste, ça a été catastrophique.
Alors, sachez par ailleurs que dans l'esprit des décideurs lyonnais, ils ont regardé attentivement le parcours de Garcia. Ils ont vu quoi? Ils ont vu que Garcia, ça marchait bien en général la première année.
C'est un peu ce que
et
je voulais vous dire.
Et d'ailleurs, contrat de 18 mois.
Ouais. Moi, ce que je pense.
Et pas contrat de 2 ans et demi, par oui. exemple, tu aurais peut-être le cas.
Moi, je suis pas choqué par la méthode là, dont
le process.
Par le process, au contraire, parce que je pense que déjà le management aujourd'hui c'est une grande partie du rôle du coach, qui vient d'ailleurs effectivement souvent avec un staff où pour toute la partie technique, je veux dire mise en place et analyse vidéo et le reste. Je suis pas choqué par ce process parce que là où Aulas a raison et là où Aulas est le meilleur et là où il a retrouvé ses prérogatives, parce que moi je dis Aulas, hein, je dis pas Juninho, parce qu'ils ont fait signer le communiqué par Juninho. Mais ça y est, on en avait parlé.
Simplement, la décision a été prise de concert.
Oui, non, mais d'accord. Mais bon,
là cette fois, c'est aussi de la politique, parce que je pense que Garcia fera peut-être moins d'ombre à Juninho qu'aurait pu en faire Laurent Blanc.
Justement, je pense que là, la décision a été prise. Donc sur le process, moi je suis pas contre, au contraire. Et effectivement, je pense que c'est une décision pragmatique. C'est pas une très bonne décision sur le long terme et sur la fameuse gouvernance qu'on nous avait vendue nouvelle de l'Olympique Lyonnais. C'est-à-dire que on nous avait vendu quelque chose où Aulas se retirait un peu, redonnait les clés du sportif à Juninho avec des coachs, un coach qui prenait le pouvoir. Tout ça, on a vu que ça marchait pas. Et je pense qu'Aulas en est en partie responsable parce que lui-même dit qu'il n'avait pas bien expliqué le job à Juninho, qu'il n'a pas assez communiqué, etc. Ils ont pris un entraîneur inexpérimenté. Et effectivement, la deuxième raison, c'est une bonne décision parce que Garcia, il est malin. Je le vois faire là déjà sur les images dans le vestiaire avec les joueurs. Sur le management lui aussi, c'est-à-dire que le management qui a servi de Aulas vers Garcia pour le grand oral, il sert maintenant de Garcia avec les joueurs, il va se les mettre bien dans la poche, tu vas voir qu'il va faire des bonnes coms, y compris par rapport à l'OM qui arrive, parce qu'on a dit ils se sont chauffés avec Aulas, il y a l'OM qui arrive, le match contre l'OM, il va être malin pour retourner tout le monde, et comme tu l'as dit, ça peut fonctionner sur du court terme. Donc je dirais que c'est un choix qui est plus évident et plus pratique pour le court terme, parce que c'est vrai que si tu prenais Blanc, si tu prenais Blanc, l'espace réservé à Juninho qui déjà est réduit aujourd'hui, eût été complètement inexistant.
Mais c'est surtout.
Et moi je pense qu'effectivement, juste pour terminer, c'est vrai que la conclusion c'est sur le long terme, c'est-à-dire que le nouvel OL, la nouvelle gouvernance et le futur grand coach étranger qu'on aurait pu rêver avoir à Lyon, on l'a pas.
Mais
on l'a toujours pas.
Ce qui a été réduit, c'est la liste, c'est tout. Désolé, c'est très français. À l'arrivée, très français, ça ne veut pas dire qu'ils sont plus nus que les autres, mais je suis désolé. Aujourd'hui, les meilleures réputations, c'est plus les entraîneurs étrangers qui l'ont, mis à part Didier Deschamps, mais il est sélectionneur. Mais le reste, c'est plus les entraîneurs étrangers.
Pour ça, je te dis, à long terme, donc, c'est une déception. Ouais, c'est
de changer plus de choses que de faire du matu vu. Alors, Laurent Blanc, ça fait 4 ans qu'on ne l'a pas vu, mais a priori, je pense qu'on ne le reverra plus, hein, parce que ce qui s'était passé là, c'est un vrai camouflet pour lui quand même. Tu prends Rudy Garcia, bon, bah, il va rien inventer, et c'est plus là-dessus, à mon avis, que les supporters lyonnais peuvent être déçus, et même les joueurs, parce que tu disais à court terme, mais bon, tu sais, le fait de faire la bise, de te prendre, comme on l'a vu sur les images, les premières relations, et là, ça va, mais ça va un temps, hein. Ça, c'est, et le staff, il a pas changé, hein. Et c'est ça, parce que, je suis désolé, tu prends un homme, allez, il arrive à deux, mais le staff, il reste le même. Ça, c'est aberrant.
Plus Fichaud, donc, qui rejoint le staff.
Oui, Fichot.
Alors, et il nous reste une minute, les gars, à vous dire que à Toulouse, Comboiré a été nommé entraîneur aujourd'hui. On pourrait y revenir demain. Hein. On n'a pas eu le temps d'en parler ce soir, mais demain, on a un after de 3 heures. On pourra revenir sur la nomination de Comboiré. Revenir également avec les drôles de dames sur ce qui s'est passé en Bulgarie ce soir, puisqu'il y a eu, donc, lors du match Bulgarie-Angleterre, des cris racistes et salut nazi également. Donc, dans ce match, Julien Laurent sera avec nous demain soir pour en parler. Et puis, par ailleurs, dernière petite info, mauvaise nouvelle pour Kevin Monet-Paquet, à nouveau touché au ligament croisé. Il s'était déjà fait opérer des ligaments croisés en février. Et du coup, sur le même genou, il va se faire réopérer. On n'est pas prêt de revoir, malheureusement pour lui, Kevin Monet-Paquet.
C'est sympa, le mec, il écoute là ce soir, il va se faire réopérer.
Mais quel âge il a ?
Je lui souhaite bon courage.
Bah, je suis désolé.
Dans 6 mois.
Ah, c'est vrai que deux fois de suite, c'est dur.
Tu te prends 6 mois, tu reviens, bam.
C'est dur, c'est sûr.
Et puis Paul Gascoigne, jugé pour agression sexuelle. Il a embrassé une dame sans son consentement, Paul Gascoigne. Là aussi, on pourra en parler ce soir.
Agression sexuelle.
Agression sexuelle, Paul Gascoigne, les faits divers continuent. Un partout entre la France et la Turquie. Demain, after de 3h. Donc, de 21h à minuit avec les drôles de l'âme. Et puis, les podcasts sont en ligne. Même s'il n'y a pas de Ligue 1, nouveau podcast aujourd'hui, spécial Lyon, spécial Saint-Etienne, spécial Paris, spécial Marseille. Ils sont tous en ligne sur les applis RMC, RMC Sport, sur toutes les plateformes. Plus le magnifique podcast J'aime courir, que je vous conseille tous, évidemment, est lui aussi disponible. Florent, il aime courir. Voilà, et Florent, il faut absolument qu'il écoute le podcast J'aime courir. Ça va lui faire.
Je peux pas courir avec un ballon.
Je vais courir avec le podcast, tiens, maintenant.
Bah oui, bien sûr, excellent.
Podcast, J'aime courir. Flo, quand il joue au foot, il court à côté du ballon.
Bah oui, c'est le principe. Hein. Tu cours sur le ballon, toi ?
Bah, je cours avec le ballon, et pas à côté.
Tu cours plus.
Hein. Je cours avec le ballon.
Tu fais des passes d'est.
Allez, à demain soir. À demain soir.
Avec le ballon ou à côté du ballon.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot.